Chapitre 15. Les psychologues. Si la science, dite pure, jouissait sur la fondation d'une liberté d'action toute particulière, cela ne devait rien au hasard. Dans une galaxie où la suprématie, voire la survie, de la fondation continuait à reposer sur sa supériorité technologique, en dépit des ressources énergétiques accrues qu'elle avait connues au cours du siècle et demi qui venait de s'écouler, les savants jouissaient tout naturellement d'une certaine immunité. On avait besoin d'eux, et ils le savaient. De même, si Ebling Miss, ainsi que l'appelaient toujours ses intimes sans s'embarrasser de ses titres officiels, jouissait au sein même de la communauté scientifique d'une autonomie toute particulière, ce n'était pas sans raison. Dans un monde où la science était respectée, il était le savant avec un S majuscule. On avait besoin de lui et il le savait. Ainsi, lorsque les autres pliaient le genou devant le maire, refusait-il de les imiter, en déclarant d'une voix forte qu'aucun de ses ancêtres n'avait jamais courbé l'échine devant cette vile engeance. D'ailleurs, ajoutait-il aussitôt, du temps de ses ancêtres, le maire était élu et destitué à volonté, et les seuls à hériter de quelque chose par droit de naissance étaient alors les idiots congénitaux. Aussi, quand Ebling Miss décida de laisser Hindbour lui faire l'honneur d'une audience, n'attendit-il pas qu'on eût transmis sa demande par la voie hiérarchique et que la réponse favorable lui fût revenue par le même chemin? Bien au contraire, il jeta sur ses épaules la moins élimée de ses deux vestes de cérémonie, il posa de travers sur sa tête un chapeau de facture pour le moins insolite et alluma, en toute illégalité, un cigare. Puis, il s'engouffra entre deux gardes sans se soucier de leurs vaines protestations et pénétra sans plus de façon à l'intérieur du palais du maire. Son Excellence eut au fait d'apprendre l'intrusion. Du fond de son jardin d'agrément, il entendit des exclamations de plus en plus proches, auxquelles on répondait par un torrent de jurons lancés d'une voix de stentor. Lentement, Hindbour reposa son déplantoir. Tout aussi lentement, il se redressa. Enfin, sans plus de précipitation, il se mit à froncer les sourcils, car Hindbour s'octroyait chaque jour un petit délassement. Pendant 2 heures, au début de l'après-midi, si le temps le permettait, il jardinait. Il faisait pousser des fleurs rouges en parterre carré, ainsi que des fleurs jaunes en parterre triangulaire, et ses formes, rigoureuses, soigneusement délimitées par des petites haies de couleur verte, s'égayaient aux extrémités d'une légère touche de violet. Et lorsque le maire était ainsi occupé, personne ne devait le déranger, rigoureusement personne. Tout en s'approchant du portillon de son jardinet, Hindbour se dépouilla de ses gants souillés de terre.
« Que signifie tout ceci ? »
finit-il par demander comme de bien entendu. Cette question, les hommes la posent depuis que le monde est monde, mot pour mot en pareilles circonstances. Jamais, de mémoire d'homme, elle n'a eu d'autre fonction que de sauver la face. La dernière chose à laquelle s'attend celui qui la pose, c'est bien qu'on y réponde. On y répondit pourtant, cette fois-là, et en termes particulièrement choisis, car Miss surgit brusquement devant le maire dans un terrible tumulte, tandis qu'un de ses poings venait frapper les gardes qui se cramponnaient encore au lambeau de sa cape. Hindbour, d'un froncement de sourcils courroucés, les congédia. Miss se pencha pour ramasser ce qui restait de son chapeau, épousseta une partie de la terre qui le maculait, le fourra sous son bras et dit
« Dites-moi, Hindbour, ces foutus crétins qui vous servent de garde ont intérêt à me rembourser mon manteau. Il aurait encore pu me faire bien de l'usage. »
Puis il soupira et s'épongea le front avec un rien d'affectation dans le geste. Le maire se raidit et dit d'un ton pincé du haut de son 1m60 «
Mais je n'ai pas été informé que vous ayez sollicité une audience. En tout cas, on ne vous en a pas accordé, me semble-t-il. »
Ebling Miss considéra son maire avec, dans l'expression, un savant mélange d'incrédulité et d'indignation.
« Mais, par la galaxie, Hindbour, on ne vous a donc pas donné mon mot hier ? Je l'ai remis à un larbin en uniforme pourpre avant-hier. Je vous l'aurais bien remis directement, mais je sais à quel point vous êtes à cheval sur l'étiquette.
« À cheval sur l'étiquette ?»
explosa Hindebourg en fixant son interlocuteur d'un air exaspéré.
« Avez-vous la moindre idée de ce que c'est que d'avoir un minimum d'organisation ?» Dorénavant, il est impératif de présenter votre demande d'audience dûment remplie en 3 exemplaires au service gouvernemental en charge de ce type de demande. Vous devrez ensuite attendre d'être normalement averti de la date d'audience qui vous est accordée. Vous devrez ensuite vous présenter dans une tenue correcte, j'insiste, et avec le respect qui convient. Vous pouvez vous retirer.
« Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue ?»
hurla Miss hors de lui.
C'était le meilleur manteau que j'avais, en tout cas jusqu'à ce que ces abrutis de garde s'en occupent. Je m'en irai dès que je vous aurai exposé ce que je suis venu vous dire. Par la galaxie, s'il ne s'agissait pas d'une crise Seldon, je m'en irai immédiatement.
Une crise Seldon ?
S'exclama Hindebourg, manifestant pour la première fois de l'intérêt. Miss était sans aucun doute possible un fin psychologue. Démocrate, rustre, rebelle, il l'était tout autant, mais il n'en restait pas moins un psychologue. La remarque de Miss avait à ce point déstabilisé le maire qu'il ne parvint pas même à trouver les mots pour exprimer l'angoisse qui le saisit lorsqu'il vit Miss cueillir une fleur au hasard, la porter à ses narines, puis la jeter sans plus de manière en pinçant les narines d'un air dégoûté.
« Voudriez-vous me suivre ?»
demanda-t-il enfin d'un ton glacial.
« Ce jardin n'a pas été conçu pour y avoir ce genre de conversation. »
Une fois installé dans son fauteuil rehaussé, derrière son grand bureau d'où il dominait les quelques cheveux qui ne parvenaient pas à dissimuler le crâne rose et chauve de Miss, il se sentit davantage à son aise. Il se sentit mieux encore lorsqu'il eut vu Miss chercher machinalement autour de lui un siège qui n'existait pas, puis demeurait debout en se dandinant d'un air gêné. Son ravissement atteignit à son comble quand, répondant à l'appel déclenché par un bouton qu'il avait pressé, conformément à l'usage qui devait en être fait, un serviteur en livrée accourut, s'approcha du bureau courbé en deux et y déposa un épais volume relié de métal.
« Maintenant, »
dit Hindebourg, redevenu maître de la situation, « afin d'abréger autant que possible cet entretien impromptu, faites votre déclaration aussi brièvement que vous le pouvez. »
« Vous savez à quoi je travaille en ce moment ?»
demanda Ebling Miss, sans paraître vouloir se hâter outre mesure.
« J'ai ici vos rapports, »
répliqua le maire d'un ton satisfait, « ainsi que des résumés de vos travaux effectués par des autorités qualifiées.
Si je comprends bien, vos recherches en mathématiques psychohistoriques se proposent de reprendre les travaux de Harry Seldon et visent rien de moins qu'extrapoler le cours de l'histoire future au bénéfice de la Fondation ?»«
Exactement, »
répondit sèchement Miss.
« Lorsque Seldon a fondé cette institution, il a eu la sagesse de ne pas faire figurer de psychologue parmi les savants qu'il a fait venir sur Fondation. C'est bien que, par nécessité, cette colonie a toujours suivi aveuglément le cours de l'histoire. Durant mes recherches, je me suis basé en grande partie sur des indices liés à la crypte de Seldon.
« Je sais tout cela, Miss. Se répéter, c'est perdre du temps. »«
Je ne me répète pas !»
tonna Miss.
« Car ce que je vais vous dire ne se trouve dans aucun de ces rapports. »«
Comment ça, dans aucun de ces rapports ?»
balbutia bêtement Hindebourg.
« Comment avez-vous pu ?»«
Bon sang, mais par la galaxie ! Laissez-moi donc vous donner ma version des faits, sale petit avorton ! Cessez d'essayer de deviner ce que je vais dire. Arrêtez de mettre en doute le moindre de mes propos, ou bien je m'en vais. Et je vous laisse vous débrouiller avec ce foutoir. » « Souvenez-vous bien de ce que je vais vous dire, foutu imbécile. La Fondation s'en tirera de toute façon, parce que c'est écrit. Mais si je m'en vais maintenant, vous ne vous en tirerez pas. »
Jetant son chapeau sur le sol, éparpillant se faisant une multitude de petites boulettes de terre qui y adhéraient,
Il grimpa sur l'estrade où était installé le grand bureau et, écartant brutalement les papiers, s'assit sans plus de manière sur un coin du meuble imposant. Hindebourg songea dans sa rage à appeler la garde ou à utiliser les désintégrateurs incorporés à son bureau. Mais Miss toisait le maire d'un air furibond et Hindebourg fit contre mauvaise fortune bon cœur.
« Docteur Miss,
commença-t-il faiblement,
vous devez
taisez-vous !»
dit Miss d'un ton farouche,
« et écoutez, si cette chose-là,
et sa main s'abattit lourdement sur la reliure métallique du classeur où se trouvaient les documents,
est un résumé mal ficelé de mes rapports, fichez ça en l'air. Tous les rapports que je rédige passent par une vingtaine d'officiels avant de parvenir jusqu'à vous et doivent encore passer par 20 autres gugus du même acabit au retour. C'est parfait tant qu'il n'y a rien de confidentiel. Mais cette fois-ci, c'est différent. »
C'est si confidentiel que même mes collaborateurs n'en ont pas eu vent.
Ils ont fait le travail, bien sûr,
mais chacun n'en a accompli qu'une petite portion. Et c'est moi qui ai rassemblé les éléments. La crypte du temps. Cela vous dit quelque chose ? Hindebourg opina, mais Miss reprit, enchantée de la tournure que prenait l'entretien.
« Eh bien, je vais vous le dire quand même parce que, par la galaxie,
voilà longtemps que j'imagine comment pourrait tourner cette foutue conversation. C'est comme si je lisais dans vos pensées, triste charlatan. Vous avez la main droite tout près d'un petit bouton qui fera surgir ici quelques 500 hommes armés prêts à me liquider. Mais vous avez peur de ce que je sais. » Vous avez peur d'une crise, Seldon. D'ailleurs, si vous touchez quoi que ce soit sur votre bureau, je démolis votre foutue caboche avant que quelqu'un n'arrive. Voilà assez longtemps que vous, votre bandit de père et votre pirate de grand-père suçaient le sang de la Fondation.
C'est de la trahison,
balbutia Hindebourg.
Certainement,
exulta Miss.
Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez-moi plutôt.
La crypte du temps, c'est cette installation que Harry Seldon a fait construire ici, tout au début de la colonie, pour nous aider à surmonter les périodes difficiles. En prévision de chaque crise, Seldon s'est préparé une sorte d'alter ego virtuel, destiné à nous redonner confiance et à nous expliquer la situation. Jusqu'à maintenant, il y a eu 4 crises et 4 apparitions. La première fois, il est apparu au paroxysme de la première crise. Et plus tard, il est apparu juste après que la deuxième crise eut favorablement évolué. Dans les deux cas, nos ancêtres étaient là pour l'écouter. À la troisième et à la quatrième crise, on n'a pas tenu compte de lui, sans doute parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais de récentes recherches, qui ne se trouvent pas dans les rapports que vous possédez, soit dit en passant, indique qu'il est apparu quand même, et au bon moment. Vous comprenez maintenant ? Sans paraître attendre la réponse à sa question, il considéra son cigare, désormais bien mal en point, et le jeta pour en allumer aussitôt un autre, tirant d'énergiques bouffées de tabac. Il poursuivit.
« Officiellement, dit-il, j'ai essayé de reconstruire la science de la psychohistoire. » En fait, tout le monde le sait, c'est une tâche impossible à accomplir pour un seul homme. Un siècle entier n'y suffirait pas, à vrai dire. Mais j'ai fait quelques progrès en ce qui concerne les éléments les plus simples. Et cela m'a fourni un prétexte pour mettre mon nez dans la crypte. En tout cas, ce que j'ai fait m'a permis de déterminer, avec une assez grande certitude, la date de la prochaine apparition de Harry Seldon. Je peux vous donner le jour exact. Autrement dit, celui où la crise Seldon qui approche la cinquième atteindra son paroxysme.
Dans combien de temps ?
Demanda Hindebourg d'une voix tendue. Miss savoura son effet avec une nonchalance réjouie.
4 mois, dit-il. 4 mois, moins 2 jours.
4 mois ?
S'emporta Hindebourg avec une véhémence qui ne lui était pas coutumière.
« Impossible !
Impossible, mais vrai, foutu crétin !»
4 mois. Comprenez-vous ce que cela veut dire? Pour qu'une crise atteigne son paroxysme dans 4 mois, cela signifierait qu'elle se prépare depuis des années.
Et pourquoi pas?
Existe-t-il une loi de la nature qui exige que tout s'accomplisse au grand jour?
Mais il ne se passe rien, voyons. Rien ne nous menace.
Hindebourg se tordait presque les mains d'inquiétude. Dans un sursaut de violence inattendue, il se mit à hurler.
Voulez-vous descendre de mon bureau et me laisser mettre de l'ordre? Comment voulez-vous que j'arrive à réfléchir dans des conditions pareilles?
Miss, pris au dépourvu, se leva tant bien que mal et s'éloigna du bureau. Hindebourg remit fébrilement à leur place les divers objets. Il parlait précipitamment.
« Vous n'avez pas le droit de venir ici comme ça. Si vous aviez exposé votre théorie... »«
C'est tout, sauf une théorie. »«
Mais si, c'est une théorie. Si vous l'aviez exposé comme il convient avec les preuves et les éléments dont vous disposez, cela serait passé devant le bureau des sciences historiques. Là, on l'aurait dûment examiné, on m'aurait soumis les résultats des analyses et ensuite, naturellement, on aurait pris les mesures appropriées. Alors que là, vous m'avez offensé sans raison. Ah, voici !»
Il tenait à la main une feuille de papier argenté transparent qu'il brandit devant le psychologue au crâne chauve.
« Voici un bref résumé que je prépare moi-même. Chaque semaine, des problèmes de politique étrangère en cours. Écoutez ça. Nous avons terminé les négociations en vue de la signature d'un traité commercial avec Maurice. Nous poursuivons la négociation pour un traité similaire avec Lyonnais. Nous avons envoyé une délégation pour je ne sais quelle fête sur Bunde. Nous avons reçu des doléances de Kalgan et nous avons promis d'étudier la question. Nous avons protesté contre des pratiques commerciales brutales à Asperta et ils ont promis de s'en occuper. Etc. »
Les yeux du maire parcoururent la liste des annotations en code, puis il replaça soigneusement la feuille à sa place, dans son classeur, et le classeur retrouva son logement.
« Je vous assure, miss, tout cela respire l'ordre et la paix. »
La porte située tout au bout de la pièce s'ouvrit, et par une coïncidence trop saisissante pour être vraisemblable, un notable, sobrement vêtu, fit son entrée. Hindebourg se leva à demi. Il éprouvait en cet instant la sensation d'irréalité désagréable et franchement déstabilisante, faite de vertige et d'angoisse mêlée qui vous vient les jours où il se passe trop de choses, trop vite. Après l'intrusion phénoménale de Miss, voilà que survenait, de façon tout aussi impromptue et par là même tout aussi troublante, son secrétaire qui, lui du moins, connaissait les usages et aurait dû les respecter. Le secrétaire s'agenouilla plus bas que terre.
« Eh bien ?»
demanda sèchement Hindebourg.
« Excellence !»
dit le secrétaire en s'adressant au plancher. « Le capitaine Anne Pritcher, de l'information de retour de Kalgan où il s'est rendu au mépris de vos ordres, a été emprisonné conformément à des instructions données par vous antérieurement, référence X20513. Et attend son exécution. Ceux qui l'accompagnent sont retenus aux fins d'interrogatoire. Rapport circonstancié dûment rédigé. »
Rapport dûment réceptionné?
Répondit Hindebourg au supplice.
Alors?
Excellence, le capitaine Pritcher a vaguement signalé que le nouveau seigneur de Kalgan nourrissait à notre égard de dangereux desseins. Conformément à vos instructions antérieures, référence X20651, il n'y a pas eu d'audience officielle, mais ces observations ont été enregistrées et un rapport complet dûment rédigé.
« Rapport dûment réceptionné ?»
hurla Hindebourg.
« Alors ?»«
Excellence, nous avons reçu voici moins d'un quart d'heure des rapports de la frontière salinienne. Des vaisseaux identifiés comme venant de Kalgan ont pénétré sans autorisation sur le territoire de la Fondation. Ces appareils sont armés. » Des combats ont eu lieu.
Le secrétaire était presque plié en deux. Hindebourg, toujours debout, demeurait impassible. Au prix d'un effort visible, Ebling Miss se secoua, s'approcha d'un pas lourd du secrétaire et lui administra sèchement une petite tape sur l'épaule.
« Allons, vous feriez mieux de relâcher le capitaine Pritcher et de le faire amener ici. Allez !»
Le secrétaire sortit, et Miss se tourna vers le maire.
« Est-ce que vous ne feriez pas mieux de mettre la machine en branle, Hindebourg? Rappelez-vous, 4 mois. »
Hindebourg resta figé, le regard vide. Seul son index semblait encore animé. D'un geste vif, automatique, il traçait des triangles sur la surface lisse de son bureau.